Carnet de route, une émission proposée par l'ASBL Samarcande. Le carnet de route, une heure d'antenne pour les ados. Bonjour à tous, et nous revoilà pour une émission Carnet de route aujourd'hui en compagnie de Nanou. Et je vous rappelle que le Carnet de route, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté pendant une heure. C'est le jeune qui choisit tous les sujets dont il a envie de parler, et pour cela on se voit peu de temps avant de faire l'enregistrement. Aujourd'hui on s'est vu pour faire une préparation. Et aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, j'ai le plaisir d'accueillir Nanou. Bonjour Nanou.
Salut à tous.
Nanou, pour ta présentation, tu as 18 ans.
Voilà, exactement.
Tu viens de la région de... Tu viens de Bruxelles.
Bien sûr.
Où tu vis normalement chez ta maman.
Voilà, depuis peu.
Depuis pas longtemps.
Voilà.
Alors, je voulais te poser une question, Nanou. Mm-hmm. Pourquoi tu as eu envie de faire le projet ?
Pour m'adresser tout simplement à tous les jeunes qui sont en quelconque difficulté. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait le pas vers vous, parce que un jeune qui est déjà venu se présenter chez vous m'en a parlé, j'ai trouvé ça super intéressant, et voilà.
Et dis-moi Nanou, par rapport à ça, par rapport à votre expression, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de t'exprimer librement comme ça ?
Non, c'est la première fois.
Et tu...
C'est la toute première fois.
Est-ce que tu as l'impression que c'est important ?
À mes yeux, oui, très important, parce que je tiens à ce que les jeunes sachent qu'on est tous en difficulté, du plus jeune au plus âgé, et que dans la vie, on peut toujours y arriver, quoi qu'il arrive. Donc, voilà.
Et quand tu parles de jeunes et de difficultés, tu as l'impression autour de toi que les jeunes ont justement des difficultés ?
Ouais, quand même pas mal de jeunes qui sont en difficulté à l'heure d'aujourd'hui, et je trouve ça vraiment pitoyable, parce que on a tout, on est en Europe, je dirais, à tout pour pouvoir nous aider, nous soutenir, et je veux dire, il y a pas beaucoup de services qui s'offrent aux jeunes d'aujourd'hui, et on a plus l'impression d'être poussé à la délinquance, à tout ce qui est vol, carjacking, toutes les conneries comme ça, tout simplement parce qu'on se sent pas soutenu. Donc voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire par rapport aux jeunes qui sont en difficulté, et pour dire aussi que moi-même, en personne, j'ai eu aussi assez de difficultés dans ma vie passée, et j'en rencontrerai sûrement dans ma vie future, je ne l'espère pas ni pour moi ni pour tous les jeunes, mais voilà quoi, j'ai quand même souffert dans ma vie, et je veux dire que au-delà de mes souffrances, je suis arrivée, et c'est tout simplement parce que je l'ai voulu et que j'ai été assez forte de caractère et d'esprit, et voilà quoi.
Et dis-moi Nanou, quand tu parlais tout à l'heure des jeunes qui tombaient parfois dans la délinquance parce qu'ils n'étaient pas assez soutenus.
Voilà.
Mais soutenus par qui ?
Par la famille, tout simplement, par la famille. Et puis il y a des mauvais. Quand on se sent pas soutenu par la famille, automatiquement on fréquente d'autres jeunes qui ont de mauvaises fréquentations. Et c'est une file indienne, et ça passe d'un jeune à un autre, un jeune à un autre. Et c'est ce qui fait la délinquance d'aujourd'hui. Pour moi personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Et par rapport à ça, je veux dire que moi aussi, à un certain moment où j'ai aussi sombré dans la délinquance, j'ai su m'en retirer, Dieu merci, mais c'est pas toujours évident de s'en retirer, quoi. Je veux dire, quand on vit des choses pitoyables, c'est épouvantable pour un jeune de s'en sortir, je veux dire. Surtout quand on est en pleine adolescence, on sait pas trop quoi faire, comment faire, si on fait bien, si on fait pas bien les choses, on sait pas trop. Quand on fait bien les choses, on a l'impression que c'est mal fait. Quand on fait les choses mal, on a l'impression que c'est super bien fait, et voilà quoi. C'est un peu schmimblick dans la tête, et on n'arrive pas trop à s'en sortir. Donc voilà, c'est clair que il y a quand même quelques personnes qui sont assez sympas, et que les jeunes devraient faire le pas vers eux pour aller les rencontrer. Et ils verront que c'est hyper chouette de rencontrer ces jeunes-là, ces personnes-là plutôt, et de parler de ces problèmes, de s'ouvrir un peu à eux, et eux pourront les aider, comme ils m'ont aidé à moi. Donc voilà.
Et quand tu dis ça aussi, c'est ce que j'entends de la part des jeunes, c'est parfois un manque de confiance aussi d'aller, tu vois, de se livrer comme ça aux autres,
c'est clair,
et
c'est
de parler
clair.
De soi. Tous les jeunes n'ont pas confiance en tout le monde non plus.
Mmh. Ouais, non, c'est clair, mais si... si on fait pas un travail avec soi-même et qu'on se dit pas un jour ou l'autre je dois faire le pas et que je dois aller de l'avant, on va jamais y arriver. C'est pas en se renfermant sur soi-même et en restant comme ça bloqué qu'on n'arrive pas à obtenir une confiance déjà envers soi-même. On pourra pas y arriver comme ça automatiquement. Par ce que je veux dire par là, en fait, en gros, c'est que le jeune, moi, je dis que le jeune, il doit quand même faire un travail sur soi-même et qu'il doit essayer d'obtenir un minimum de confiance en soi et de faire un pas vers la personne, et verra qu'il ne sera pas forcément déçu une première fois, oui, peut-être, une deuxième fois, mais par après, non. Quand la personne adulte face à lui voit que le jeune a confiance en lui et qu'il sait ce qu'il veut, automatiquement, on le considère comme un plus grand et par après, ça avance, quoi. Je veux dire, les démarches avancent.
Donner sa confiance, ce serait aussi rentrer dans la vie, Nanou.
C'est-à-dire comment rentrer dans la vie?
Pour ces jeunes qui se sentent tellement enfermés dans leurs problèmes. Parfois, mm-hmm. j'ai déjà rencontré des jeunes qui avaient mm-hmm. tellement de problèmes, mm-hmm. C'est comme s'ils étaient prisonniers dans leur bulle, mm-hmm. tu vois, et tout était négatif à ce moment-là, y compris l'aide qu'on pouvait leur donner. Mm-hmm. Alors, parfois, je propose aux jeunes, c'est de percer cette bulle, c'est facile à dire, mais
bien sûr.
De casser ça, parce que ce qui se passe à l'extérieur, comme l'aide ou la confiance, mm-hmm. c'est quelque chose qui, à un moment, ils ne peuvent pas le voir, puisqu'ils
bien
sont
sûr,
dans leurs problèmes.
Bien sûr. Mais tout d'abord, par rapport à cette bulle, justement, c'est que la bulle, au départ, c'est eux qui la forment avec les copains, les copines, les fréquentations. Et une fois qu'ils sombrent dedans, c'est foutu. Donc moi, je dis, cette bulle-là, c'est peut-être facile à dire, mais quand on veut, on peut y arriver. Donc c'est aussi facile à percer. Et il faut y sortir de cette bulle, parce que c'est une très mauvaise bulle. Et c'est pas comme ça qu'on va avancer, qu'on va aller de l'avant. Bien au contraire, on va faire que du surplace. Et je trouve ça vraiment ridicule. Moi, je dis aux jeunes, franchement, dans la vie, on peut toujours tout obtenir si on le veut, et que si on a un caractère assez fort, et que de toute manière, même qu'on soit faible ou pas faible, on peut forger le caractère et on peut toujours y arriver de toute manière. Donc voilà, moi je dis, il faut quand même essayer de faire un pas vers l'avant et essayer de rencontrer quelques personnes, même si la première fois ça ne passe pas, la deuxième fois, faut toujours essayer, réessayer, réessayer, c'est en tombant qu'on se relève. Donc voilà. Moi, je dis qu'il faut faire ça et que c'est une expérience à faire, et on ne sera pas déçus, ça c'est clair. Donc voilà.
Merci Nanou.
Il n'y a pas de souci.
Et quand tu dis se relever par rapport aux expériences, toi, ce que tu m'as dit, c'était vouloir parler aussi de ta maladie.
Oui, oui, effectivement.
Parce que je t'avais demandé si tu acceptais de faire un récit de vie, mm-hmm. et je t'avais demandé de choisir une date dans uh-huh. ta vie, qui uh-huh. était importante pour toi. Et toi, tu m'avais dit...
Le 25 février.
Et tu avais 6 ans.
Et j'avais 6 ans, exactement. Ben voilà, je voulais aussi m'adresser aux jeunes qui sont malades ou qui ont été malades. Moi-même, en personne, j'ai été malade de la leucémie. Le 25 février, j'avais 6 ans et j'étais à l'école. Je sentais des fourmis dans mes jambes, comme si mes jambes s'endormaient. J'avais 42 fièvres. On m'a pris en urgence c'est ma maman qui m'a pris aux urgences. J'ai été, et 2 semaines plus tard, on m'a annoncé que j'avais la leucémie. Et je me suis retrouvée livrée à moi-même, c'est-à-dire moi et moi-même seule. Je devais faire mon combat toute seule, comme une grande, à 6 ans. Je devais réfléchir comme une femme de 25 ans et essayer de me remonter le moral, ce qui n'est pas toujours évident, parce que moi, j'ai eu ma maman qui m'a abandonnée, clairement. J'ai grandi sans mon papa. Et je voulais dire aux jeunes qui sont malades ou qui l'ont été, que dans la vie, on peut toujours y arriver, comme je le dis et je le redirai toujours, et que on peut mourir d'un simple rhume comme on peut mourir d'une grave maladie, et qu'il faut se dire que pourquoi quelqu'un d'autre peut y arriver et pas soi-même. Faut faire un travail avec soi-même, essayer de se remonter le moral, dire qu'on est fort, qu'on peut y arriver, qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est les meilleurs à ce moment-là. Il faut se considérer comme meilleur du monde, et voilà. Et essayer d'éviter les regards des gens, parce que les regards des gens, ils vous regarderont toujours avec de la pitié, de la méchanceté, avec quelconque regard, jamais avec un regard neutre. Qu'on soit malade, pas malade, qu'on soit comme on peut être, on aura toujours un jugement extérieur, et il faut pas vivre avec, parce que sinon on est foutu d'avance. Donc moi je dis, il faut faire un pas vers l'avant et se dire qu'on est les meilleurs et qu'on peut toujours y arriver. Donc voilà.
Et quand tu parlais d'avoir confiance en soi par rapport mmh. à se battre par rapport à une maladie, il y a aussi tous ces jeunes qui manquent de confiance en eux et qui ont du mal parfois à s'accepter. Et ça aussi, c'est un beau message pour tous les jeunes.
Bien sûr. Mais de toute manière, chaque être humain a son charme. Personne n'est moche. c'est simplement que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y en a un qui va me trouver moche comme l'autre pourrait me trouver plus belle. Et moi, je dis que quand on se lève le matin, qu'on se regarde dans la glace, on peut toujours trouver un charme en nous. Et la beauté physique aussi fait beaucoup dans la confiance d'une personne. Et il y a personne qui est moche sur Terre. Moi, je le dis et je le dis bien haut et fort. Et voilà quoi. Et il faut, comme j'ai dit, c'est pas, faut pas vivre par rapport au regard des gens, parce que le regard des gens joue beaucoup sur la confiance de la personne. On se sent un peu rabaissé, un peu. On sent que la personne adverse est plus élevée que nous, est plus supérieure que nous, mais rien à voir. On est tous sur le même piédestal. Et voilà quoi. Il faut pas se prendre la tête.
Et par rapport à ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure en prépa, hein, Nanou. Mais mm-hmm. quand tu me dis, oui, il faut avoir confiance en soi, il faut que les jeunes aient confiance en leur image mm-hmm. et s'acceptent, etc., parce qu'ils sont beaux, même beaux à l'intérieur. Mm-hmm. Mais quand toi, par exemple, qui as 18 ans, comment est-ce que tu vis, par exemple, la publicité, où on montre toujours des gens qui sont super beaux, qui sont... Oui, et on met souvent la beauté avec la réussite sociale et mm-hmm. ce genre de choses. Mm-hmm. Comment, toi, tu vis ça à 18 ans?
À 18 ans, ben, tout simplement, j'ai fait des études de coiffure et tout ce qui est publicité et tout, c'est toujours trafiqué, si ça peut vous rassurer. C'est toujours du traficage à pas possible. Il suffit de mettre un tout petit peu de blush, un peu de rimmel et voilà, on est super beau. Faut pas faire attention aux publicités parce que c'est arrangé par ordinateur, c'est du traficage. Il faut pas y prendre compte, c'est de la connerie, de la pire connerie qui puisse exister, quoi. Tout ce qui est, les modèles et les top modèles et tout, déjà, ces top modèles, intérieurement, elles sont pas heureuses elles-mêmes. Donc voilà, ça c'est un fait certain et il faut pas y prendre compte du tout.
Et par rapport, je vais essayer de bien exprimer la chose, mm-hmm. mais quand tu vois la télévision ou les publicités mm-hmm. et qu'on demande, on propose tout le temps des choses à acheter, à consommer, dans la tête de jeunes de 18 ans, comment ça se passe quand justement vous avez tellement de difficultés que vous vous retrouvez à la rue, que vous n'avez pas mmh, d'argent. Mmh. Est-ce que ça vous influence aussi?
Bien sûr, ça nous influence et au vol et à autre connerie, ça c'est clair. Mais tout ce qui est publicité aussi, c'est aussi beaucoup mensongère parce que le produit qu'on propose à la télé n'est pas forcément le produit qu'on va acheter et la même qualité. Ils en rajoutent toujours, ils font tout pour attirer l'attention du jeune et de la jeune pour pouvoir acheter ce produit. Et malheureusement, les jeunes, ils n'ont pas toujours les moyens de pouvoir se l'offrir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le voler ou ils font de la tête aux pieds pour pouvoir avoir ce produit. Ce qui n'est pas toujours évident, je le comprends bien, parce que moi-même, personnellement, combien de fois je suis pas passée dans... J'ai vu des pubs à la télé qui m'attiraient grave, que j'avais vraiment envie d'avoir ce produit-là à moi perso. Et j'arrivais pas et j'ai tout fait pour pouvoir l'avoir. Et finalement, je l'ai eu. Pas toujours comme il le fallait, mais je l'ai toujours eu. Et franchement, c'est pas toujours utile d'avoir ces produits-là publicitaires. Ça, c'est un produit secondaire. On n'en a pas besoin. C'est pas notre. C'est pas pour vivre en fait. On n'en a pas forcément besoin pour vivre. Donc voilà.
Et on a besoin de quoi pour vivre?
Ce qu'on a besoin pour vivre, c'est déjà tout simplement manger, boire, se vêtir. Voilà. Moi, je dis, c'est les trois choses importantes.
Et de l'amour?
De l'amour, oui et non, c'est ouais, oui et non, parce que de l'amour on peut se l'approprier tout seul, on peut tout simplement faire comme Michael Vendetta, je suis un beau gosse et puis voilà, faut pas se prendre la tête.
Je ne connais pas lui.
Ah, il faudrait.
Tu peux expliquer c'est qui?
Ben c'est un à la base c'était un macro qui est à la ferme célébrité, je sais pas si les jeunes connaissent, si toi-même tu connais. C'est une émission qui passe à la télé et c'est un gars qui se trouve super 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 beau, il se prend pour le centre du monde et moi je dis faut prendre exemple sur lui, il se prend pas la tête, il cherche pas midi à 14h, faut se regarder dans la glace et se dire je suis un beau gosse, je suis une belle gosse. Et puis voilà, c'est tout, qu'on soit habillé H&M ou du marché, c'est pareil, on est habillé, qu'on mange du Lidl ou du GB, on mange. Donc voilà. C'est tout, je veux dire, moi perso c'est le principal. C'est le principal pour moi, c'est de manger, boire et m'habiller, et puis voilà, c'est tout. Le reste, tout ce qui reste, c'est secondaire, voilà.
Quand je te disais, je te parlais d'amour, c'est aussi par rapport à ce que toi tu m'as dit tantôt, hein, Nanou, c'est le manque qu'on peut parfois ressentir Bien par sûr. Rapport aux parents qui nous Bien ont sûr. Un peu délaissés, quoi.
Bien sûr, ben voilà, justement, quand je parlais de faire un pas vers les gens extérieurs, c'est justement ça, parce que peut-être que si vous n'avez pas eu l'amour de vos parents, vous pouvez l'avoir extérieurement. Des fois, on n'a pas cet amour qu'on doit avoir de la maman ou du papa, et on peut le trouver chez une personne extérieure, c'est-à-dire une personne inconnue. Si on fait un pas vers elle, on peut retrouver l'amour d'un père, d'une mère, de toute une famille, et on peut tomber de très haut en recevant cet amour-là, parce que moi, perso, j'ai eu ni l'amour de ma mère, ni de mon père, ni de personne, et j'ai trouvé ce manque d'amour qu'il y avait en moi, je l'ai retrouvé chez des personnes extérieures, chez mes assistantes sociales, chez ma psychologue, chez les infirmières, les médecins, au centre d'accueil. Donc voilà, on peut toujours trouver de l'amour quelque part. Ça, il suffit juste de faire un pas vers l'avant et de percer cette petite bulle dans laquelle on est, et voilà.
Et Nanou, quand tu parlais d'amour, il y avait aussi la confiance. Parce que là, tu parlais des gens avec qui tu as pu... les gens qui ont pu t'aider. Mm-hmm. Tu parlais des infirmières.
Oui, oui.
Et ce que tu m'avais dit, c'est que toi, tu as rencontré pas mal de gens en qui mm-hmm. tu as pu avoir confiance.
Voilà.
Et notamment, il y avait la police, tu m'as dit, des mm-hmm. juges. Mm-hmm. Et beaucoup de personnes que tu as rencontrées, et pendant ta maladie... Et après, je crois.
Voilà, exactement. Mais c'est assez complexe parce que les jeunes d'aujourd'hui, une fois qu'ils entendent la police, c'est non, c'est ils mettent une barrière entre eux et la police. C'est pas toujours quelque chose de négatif. Faut pas voir la chose négativement. Faut être un peu optimiste et se dire que, allez, ces policiers aussi, c'est pas toujours évident pour eux de faire ce qu'ils font comme boulot. Et que quand nous, on a un souci, on va vers eux pour qu'ils puissent nous aider, donc il faut voir la chose comme ça. Et moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de soutien par les policiers, par les juges. Ils m'ont énormément aidé psychologiquement. Et malgré que je faisais des conneries, je suis pas un ange, je suis pas sainte ni touche, mais j'ai aussi fait des conneries dans ma vie. Et ces personnes-là m'ont beaucoup aidé. Et franchement, ce serait une bonne chose de faire un pas vers eux et d'aller s'exprimer chez eux. Et eux, peut-être qu'ils nous trouveront une porte à ouvrir plus facilement, quoi.
Tu t'es déjà retrouvé parfois dans des situations où tu avais besoin d'aide et c'est la police qui t'a aidé.
Oui, voilà, exactement. Je me suis déjà retrouvé dehors, sans toit où dormir, sans chauffage, sans rien, dans le froid. J'avais qu'un t-shirt et un court pantalon. Ils m'ont pris dehors parce que j'étais dehors, j'étais en train de voler, clairement. Et ils m'ont pris au cachot et tout. Et j'ai pu discuter avec eux. Je leur ai étalé un peu mes soucis. Et eux m'ont trouvé un remède à ça. Ils m'ont tout de suite hébergé la nuit même. Donc j'ai dormi chez eux. J'ai été nourrie et tout. Et je peux vous dire que en hiver, ici en Belgique, quand il fait froid, on est bien content d'être hébergé chez la police. Ça, je peux vous le rassurer. Et ils m'ont tout de suite trouvé un centre d'accueil. Et voilà, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu, ils m'ont tenu la main jusqu'au bout. Et voilà, là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec quelques policiers qui ont pu m'aider, qui ont eu la gentillesse de me secouer, de me réveiller un peu, de m'ouvrir les yeux. Donc voilà, c'est pas toujours négatif, la police.
Et quand tu dis ils ont pu me réveiller, me secouer, c'est parce que il fallait que tu prennes conscience de risques que tu prenais.
Voilà, exactement, parce que c'est un engrenage, c'est-à-dire aujourd'hui je commence à voler, demain je fais autre chose et j'empire de jour en jour. Et grâce à eux, ils m'ont réveillé, ils m'ont fait prendre conscience de ce qui pouvait m'arriver si je continuais dans ce chemin-là, quoi. C'est pas toujours évident pour un ado, c'est clair, certes, mais voilà, de temps en temps, faut arriver à ouvrir les yeux et voir la réalité des choses en face. C'est clair que tout n'est pas toujours rose et comme on le veut et parfait, mais il faut faire les choses pour que ça soit parfait. Donc voilà.
Et quand tu parlais de juge tout à l'heure, mm-hmm. Nanou, c'est parce que quand tu as rencontré tes difficultés avec tes parents, mm-hmm. c'est qu'automatiquement, hein, tu as un juge qui s'occupait de...
Automatiquement, c'est clair. Le juge de l'aide à la jeunesse. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais en manque d'argent et j'ai pris l'or de ma mère et j'étais le vendre. Donc voilà, et ma mère a porté plainte et il y a eu toute une procédure et tout. J'ai été voir le juge et tout, qui m'a mis en IPPJ et donc voilà. Et en même temps, je jonglais entre l'IPPJ et les hôpitaux, ce qui n'était pas aussi évident. Et la juge, franchement, elle m'a fort aidée. Elle m'a dit, écoute, ce que tu fais, c'est con, c'est vraiment ridicule. Elle me dit, t'es super jolie, t'es super belle, t'as tout ce qu'il te faut, tu as une superbe assistante sociale, t'as une super psychologue, t'as, y a tout pour t'encadrer, et toi, tu voles ta mère pour aller vendre ses bijoux pour te faire de l'argent. C'est con, quoi. Je veux dire, limite, tu viens chez moi, tu me demandes, je te donne, je t'aiderai. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, il faut s'ouvrir au juge, à tout ce qui peut, tout ce qui nous est offert, il faut s'ouvrir à eux pour que eux puissent nous aider, parce que eux, ça peut pas leur tomber du ciel que moi j'ai des problèmes ou quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà.
Et donc ces gens peuvent t'aider à grandir aussi.
Exactement. Ça c'est clair, parce que moi j'ai pris un grand cran de maturité grâce à ces gens-là, parce que je peux vous dire, ils seront venus me parler il y a 2-3 ans de ça, j'étais vraiment dans un trip, mais autre, quoi. Vraiment, c'était rien à voir. La nanou d'avant et la nanou d'aujourd'hui, c'est deux personnes tout à fait différentes, quoi. Et je continuerai toute ma vie à évoluer, c'est clair. Comme je pense aujourd'hui, je ne penserai pas à 28 ans, et c'est comme ça, c'est une échelle à grimper, et on la grimpe comme on peut, mais il faut y arriver au bout, quoi. Il faut arriver au sommet, ça c'est clair.
Nanou, je vais te proposer ta première musique, si tu veux bien.
Ok, d'accord.
Et la première, c'était celle-ci, je crois.
Voilà, exactement, Léa Castel.
Et soprano. Hein.
Et soprano, dernière chance.
Et tu voulais passer cette musique
à tous les malades.
Merci beaucoup, Nanou.
Mais c'est avec plaisir.
Quelle boule de nerfs. Quelle
ah ouais,
boule d'énergie.
Grave. Je suis une bonne vivante.
Eh bien, nous revoici dans le carnet de route de Nanou, que j'ai rencontré la semaine passée et qui m'a demandé de venir s'exprimer aujourd'hui librement.
Voilà, exactement.
Et où se trouve-t-on ici, Nanou ?
On se trouve à SOS Jeunes, quartier libre, c'est-à-dire que c'est un centre pour jeunes mineurs.
Et ils ont la gentillesse de nous prêter un local ici où on peut faire cet enregistrement.
Exactement.
Nanou, tu avais choisi cette musique aussi parce que tu me disais que bah, il parle aussi de disparaître et de maladie.
Voilà, exactement.
Et tu disais que dans la vie, cette chanteuse, elle avait rencontré la maladie aussi.
Voilà, exactement. D'après ce que j'ai entendu, cette chanteuse a aussi subi une maladie, laquelle je ne saurais pas vous répondre, et qu'au final, elle a pu arriver à ses rêves, elle a pu combattre cette maladie, donner tout ce qu'elle pouvait donner pour pouvoir y réussir. Et voilà, c'est un bel exemple pour dire que quand on veut, on peut y arriver. Il suffit juste de se battre, de donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut donner, et de se dire moi, je veux y arriver, je vais y arriver. Ça, c'est clair et net. Et se focaliser ça dans la tête et se dire que voilà, on va réussir. Ça, c'est d'office, quoi.
Et dans la chanson, ce que l'on perçoit aussi, c'est qu'elle est accompagnée par quelqu'un qui la soutient aussi.
Voilà, exactement.
C'est aussi l'amour.
Voilà, exactement. Ben moi, j'ai eu l'amour d'une copine à moi qui était elle aussi malade dans le même hôpital que moi, dans la même chambre que moi. Et on se soutenait l'une l'autre et on avait toutes les deux un regard neutre l'une envers l'autre. Et voilà, quoi. On se disait qu'on allait y arriver toutes les deux et qu'on allait rester copines à vie, que ce soit jusqu'à la mort, quoi, jusqu'au dernier jour de notre vie. On restera en contact et c'est ce qui s'est vraiment passé. On a toutes les deux réussi. On a été fortes d'esprit, fortes de caractère. Et voilà, on se lançait, on se jetait des fleurs l'une à l'autre pour pouvoir se remonter un peu le moral. Et voilà, finalement, on a réussi.
Et quand tu dis un regard neutre l'une par rapport à l'autre, c'est parce que tu me disais qu'il y avait aussi le regard des gens qui n'étaient pas malades et voilà, qui parfois, toi, ben, ça t'ennuyait parce que tu voulais pas de la pitié des gens.
Exactement, parce que la pitié des gens, c'est vraiment se mettre un poignard dans le cœur de la personne malade. C'est vraiment horrible à subir, quoi. Quand quelqu'un vous regarde avec de la pitié, c'est comme si on voyait un chien qui n'avait pas mangé, qui aboyait, quoi. C'est vraiment ça, on se sent ridicule, on se sent moins que rien et c'est horrible. Pourquoi regarder une malade avec une pitié, avec un regard de pitié et ne pas la regarder simplement neutre, un regard neutre comme moi j'ai envers une autre personne inconnue, je regarde une personne neutre. Dans le bus, on se regarde neutre, on a un regard neutre l'un envers l'autre. Donc voilà.
Mais c'est difficile de rebondir là-dessus, mais c'est difficile d'avoir un regard neutre en général dans la vie.
Moi non, moi je dirais le contraire, parce que je me dis que c'est un humain, c'est un être humain comme tout le monde, c'est pas parce qu'il n'a pas de cheveux, il n'a pas de sourcils, qu'il subit des chimios, qu'il est malade, que forcément il faut le regarder avec une espèce de pitié, une espèce de « oh là là, le pauvre ». C'est non, pourquoi ? Voilà, quoi. Moi personnellement, je perçois pas la chose comme ça. Moi je dis qu'il faut la regarder simplement pour pouvoir la soutenir moralement, quoi.
Mais pour que les gens ils te comprennent, parce que ça peut aider aussi les gens à comprendre ça. Mais comment tu l'expliquerais, être neutre par rapport à quelqu'un de malade, par exemple?
Ok, ben tout simplement, quand vous montez dans le bus ou vous prenez les transports en commun, quand vous regardez les gens en dehors que vous connaissez pas, vous les regardez normalement. C'est-à-dire, vous connaissez pas, vous regardez, puis vous tournez la tête, quoi, normalement. Ben, c'est tout simplement ça, c'est pas le regarder, rester les yeux fixés sur la personne, avec, et c'est, quand ils froncent un peu le sourcil, avec de la pitié, on voit que c'est de la pitié. C'est trop voyant, c'est pas possible de masquer ça.
Et ça n'aide pas du tout la personne.
Ça n'aide pas du tout, au contraire, ça l'enfonce plus qu'autre chose, quoi.
Mais tu parles de ça, mais tout, tu parlais de la différence physique aussi. Et est-ce que ce ne serait pas comme ça qu'il faudrait faire, même vis-à-vis des gens qui ont un handicap, par exemple?
C'est-à-dire
des gens qui sont en chaise roulante, des gens qui sont... Tu as parfois des gens handicapés qui ont quelque chose au visage.
Bien sûr, bien sûr. Mais j'en ai croisé plusieurs, mais pour moi, ces gens-là, ils sont très beaux. À mes yeux, ils sont magnifiques. Parce que je me dis, ces gens-là, ils sont malades et malgré tout, ben, ils tiennent le coup, ils sortent, qu'ils sont en chaise roulante, qu'il leur manque un bras, une jambe, un œil, un nez, ils sont quand même beaux. Moi, je trouve à chaque personne, à chaque être humain, je trouve une beauté. Et voilà, et même ces gens-là, il faut pas les regarder avec la pitié. Ils devaient être comme ça et ça s'est passé. Et puis voilà, quoi, il faut pas regarder ces gens-là avec la pitié parce que ça leur fait plus mal qu'autre chose. Il faut les regarder normalement, simplement, comme si c'était une personne normale. Et c'est comme ça qu'on peut les aider, parce que les regarder avec la pitié, c'est plus les enfoncer qu'autre chose. Et ça, c'est une rage qui est en moi, qui sort, mais que j'essaye d'exprimer, qui est horrible, quoi, parce que j'ai subi ça pendant 10 ans, des regards des gens avec de la pitié et tout, et ça, je ne supporte pas, non. Que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, non, je ne supporte pas.
Et tu sais, je rebondis sur tous ces jeunes que je rencontre qui sont d'origine africaine, parfois, et qui vivent aussi le regard des autres.
Ouais, parce qu'ils sont de couleurs différentes, c'est ça? Eh ben, franchement, ces gens-là, à tous ces Africains, je leur fais une dédicace et franchement, respect à eux, parce que moi, je dis, ces gens-là, ils ont du courage, allez, je sais pas, ils ont quelque chose qui fait qu'ils sont forts, parce que c'est vrai que c'est pas évident de subir tous les jours des regards parce qu'on est Africain ou parce qu'on a une autre couleur que blanc. Moi, je dis, ils ont pas à s'inquiéter pour ça, ils sont magnifiques et ils doivent continuer à vivre pleinement.
Il faut jamais perdre les pédales et tout finit par s'arranger si on le veut. Ça,
bien
c'est
sûr.
Même si je le répète et que tu le répètes, ça vaut la peine d'être redit.
Bien sûr, et ça vaut la peine aussi d'être entendu. À tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ou qui suivent l'émission, franchement, gardez la pêche et gardez les pédales et tenez le coup, parce que c'est juste comme ça que vous pouvez y arriver.
Tu sais, je vais peut-être faire je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai entendu les informations il y a quand même il y a peu de temps. Et on parlait des gens qui étaient dépressifs en Belgique. Apparemment, c'est un pays où on consomme énormément de petites pilules pour se sentir moins triste, pour des antidépresseurs, en fait. Je ne sais pas si tu sais ça.
Ouais, mais c'est de la mauvaise pub, ça, que tu fais.
Non, mais c'est une information, parce que même chez les jeunes... tu as énormément de jeunes qui se sentent pas bien, bien dans leur peau, pas bien dans leur tête.
Bien sûr.
Et c'est aussi pas mal de courage pour ces gens-là, que ce soit pour les jeunes ou les adultes, d'avoir de l'énergie comme ça devant moi, et qui traduit et qui explique un peu son expérience dans la vie.
Bien sûr, parce que moi aussi, quand j'étais malade, ben, j'étais aussi assez dépressif, et j'ai aussi pris des pilules, des calmants, parce que je faisais des crises et tout, c'était pas possible. Mais ces calmants-là, c'est pas utile, en fait, parce que par après, on devient dépendant de ça et c'est horrible pour s'en séparer. Et moi, je dis, la seule manière, c'est de garder la tête haute et de bomber le torse et d'avancer, d'aller de l'avant et pas se focaliser sur ces conneries, parce que ça, c'est des futilités. C'est vraiment des petits trucs, on n'en a pas besoin, on n'en a vraiment pas besoin, et faut pas s'y attacher, quoi.
Oui, mais je pense qu'il y a quand même des gens, ils sont peut-être moins nombreux, ces gens-là, mais qui souffrent vraiment beaucoup dans la tête et qui ont besoin d'être aidés aussi.
Bien sûr, mais pour ça, pour ces personnes-là, il y a des psychologues, il y a des gens qui leur ouvrent leurs portes, qui leur ouvrent les bras pour pouvoir travailler leurs problèmes, qui se sentent mal ou le manque de confiance. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver, c'est en allant vers ces gens-là qui, qui eux sont là pour vous aider et voilà, ils feront tout pour vous. Ça c'est moi qui vous le dis, et c'est en connaissance de cause. Donc je ne parle pas sans connaître et voilà quoi. S'il y a bien une chose qui puisse vous aider, c'est les gens qui vous ouvrent leurs bras et qui sont là pour vous aider. Donc voilà.
Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier plus tard, Nanou?
Ben moi, à la base, je suis coiffeuse et malheureusement, je peux pas continuer mon métier parce que je fais des allergies aux produits. Mais plus tard, ce que je voulais faire, en fait, c'est psychologue ou infirmière. Vraiment. C'est un métier vraiment fabuleux, c'est trop beau, c'est aider les gens, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. C'est le plus beau métier qui puisse exister. Attention, les autres métiers aussi sont bien, mais je dis ça, c'est vraiment extraordinaire.
C'est aussi les aider avec la parole, surtout pour le psychologue.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que la parole, elle fait beaucoup, hein. Elle fait beaucoup, la parole, parce que des fois, c'est pas les choses qui peuvent vous aider, c'est plus la parole, c'est plus dans le mental, dans le moral, dans, allez voir une psychologue, elle est là, elle vous remonte le moral, elle est là à votre écoute, elle vous écoute, elle est attentive à ce que vous dites, elle peut tout faire pour vous aider, ça c'est d'office, quoi. J'ai été voir une psychologue, elle est géniale, et moi c'est ce que je voudrais faire plus tard pour pouvoir aider les autres qui sont en difficulté, ça c'est d'office, quoi.
Nanou,
oui.
Je te propose ta deuxième musique.
Ok.
Est-ce que tu reconnais ça?
Oui, bien sûr.
Le titre, c'est
Kalia, le soleil de ma vie.
Eh bien voilà, merci beaucoup Nanou.
Il n'y a pas de souci, avec plaisir.
Et nous voilà pour le carnet de route de Nanou, toujours à SOS Jeunes.
Voilà.
Merci, parce que c'est une belle chanson, mais c'est... Tu l'avais choisi pour parler de quelque chose qui n'était pas facile non plus.
Non, c'est clair, c'est pas évident à vivre. Ben voilà, j'ai été amoureuse d'un jeune homme durant 2 ans de ma vie et je pensais être tombée sur la personne idéale, mais au final, je me suis bien trompée parce que c'était pas du tout ce que je pensais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, il m'a fait croire que c'était le garçon idéal, qu'il n'y en avait pas deux, que c'était l'amour fou qui m'aimait, que je l'aimais. Et au final, non, pas du tout, quoi. C'était le gars, il était vraiment mal, mais vraiment trop mal. Il a sombré dans le noir, pas possible. Et voilà, quoi, il était accro à des drogues dures. Et au final, ça lui a pas servi, tout ça. Il s'est rendu compte qu'il faisait que tomber, que se casser la gueule sans se relever, sans voir de l'avant. Et voilà. Et ce jeune homme, je suis tombée enceinte 2 fois de lui. J'aurais pu être maman 2 fois et il m'a frappé jusqu'au bout. J'ai perdu les 2 bébés et donc voilà, c'est une chose que je vis tous les jours et j'arrive pas à oublier ni à tourner la page. Mais au final, je me dis que c'est bon, c'est du passé. Et puis voilà, ça devait se passer comme ça et ça s'est passé. Et puis maintenant, j'ai tourné la page, je repars d'une page blanche et je suis très contente comme ça, quoi. Au final, je me dis que dans des mauvaises choses, on peut en tirer des bonnes conclusions et des bonnes choses aussi. Et que des fois, dans des choses négatives, on peut en trouver des trucs positifs. Et voilà, quoi. C'est pour ça que je dis, il faut toujours y croire et garder espoir. Et on peut toujours y arriver dans la vie. La preuve, je vais bientôt me marier avec un gars que j'aime beaucoup et qui m'aime énormément. Et c'est l'amour fou. Et voilà. Et je suis sûre d'être tombée là maintenant sur la bonne personne. Donc voilà.
Je vois que j'ai écrit solitude sur ma petite feuille tout à l'heure. Mm-hmm. Tu m'as parlé de ça et je pense que c'est quelque chose que tu as peur de la solitude.
C'est complexe parce que oui et non. Peur de la solitude, non. Pourquoi ? Ben, pour la simple et bonne raison que je me suis retrouvée seule durant toute ma vie quasi. Et au final, j'ai su me combler d'amour toute seule et avec les gens extérieurs inconnus. Et voilà. Et oui, peur. Pourquoi ? Ben parce que je suis sûre d'être tombée sur la bonne personne, mais en même temps, on peut jamais être sûr à 100%. On peut l'être qu'à 99%. Et voilà quoi. Donc peur de retomber à nouveau, de faire marche arrière en fait, de mettre cassette arrière et retomber dans le même schmilblick avec mon ex. Donc voilà quoi. Mais je garde la tête haute malgré tout et quoi qu'il arrive. Je sais que je peux toujours y arriver. C'est comme ça que j'essaie de me secouer, de me remonter le moral un peu en solo, quoi.
Je disais ça tout à l'heure parce que quand tu m'avais parlé de, bah, tu m'as parlé de ta vie, tu m'as dit ton sentiment d'abandon aussi par rapport à ta maman, ton papa. Quand tu m'as parlé tout à l'heure de ton ami, je t'ai demandé pourquoi tu voulais te marier.
Voilà.
Et tu m'as dit c'est mon ami, c'est mon père, c'est ma mère.
Voilà, exactement.
Et c'est toute une série de gens en même temps.
Exactement, parce qu'en fait, en l'espace d'un an et demi, il m'a vraiment comblé. Il a comblé ce manque d'amour qu'il y avait en moi. Il m'a donné de l'amour de ma mère qui ne m'a pas donné son amour. Mon père, l'amitié, l'amour, tout. Il a tout en lui et il m'a offert tout ça. Il m'a ouvert les bras. Et moi, je dis que ça existe toujours des bons garçons et des bonnes filles. Donc voilà, faut garder espoir, faut juste avoir un peu de patience. Et tout vient tapant qui sait attendre, comme on dit. Donc voilà. En gros, il faut pas perdre espoir. C'est pas parce qu'on est seul que, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné pendant un certain temps. Et au final, on trouvera bien la bonne pointure à son pied, quoi.
Quand tu parles comme ça de ton papa et ta maman qui ont été absents, tu m'as quand même dit, par exemple, que ta maman, elle t'avait laissé pendant toute ton hospitalisation.
Voilà, exactement.
Et comment toi, tu as réagi à la fin de quand elle est venue te voir?
Ben, déjà, ma maman prenait de mes nouvelles que par téléphone. C'est même pas... Elle m'appelait même pas moi directement, c'était elle appelait les infirmières et les infirmiers, mes médecins, pour savoir où j'en étais un peu au stade de ma maladie. Et elle est jamais venue me voir. Elle est sur les 10 ans où j'étais malade, elle est venue me voir peut-être 2-3 fois. Et le dernier jour de ma maladie, je sais pas comment ça se fait, elle s'est sûrement arrangée avec les infirmières ou je sais pas comment elle a fait son compte. Elle est arrivée en même temps que le médecin qui me soignait. Il est aussi arrivé avec un bouquet de fleurs dans sa main. Et puis elle me dit bonjour, je lui dis bonjour. Et ensuite je la regarde droit dans les yeux. Le médecin la regarde dans les yeux, il me regarde et puis je lui dis « Bon, bah maman, c'est bon, au revoir. » Elle me dit « Pourquoi ça, au revoir ?» Je lui dis « Bah, parce que tu as été absente pendant 10 ans de ma vie où j'étais en difficulté, où j'avais vraiment besoin de toi. Tu n'étais pas présente, tu m'as pas apporté ce que j'avais besoin. Et au final, tu arrives, c'est bon, maintenant, au revoir, quoi. Tu peux t'en aller, c'est bon. J'aurais pu partir, tu n'aurais même pas été au courant si ça se trouve. » Donc voilà. Au final, c'est comme ça que j'ai réagi parce que je lui en voulais. Je lui en veux un peu moins à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est cette rancœur, je l'ai toujours en moi et un jour ou l'autre, elle s'estompera, ça c'est d'office parce que de la rancœur, c'est pas bon de vivre avec de la rancœur, ça c'est clair. On fait tous des erreurs dans la vie et c'est en faisant ces erreurs-là qu'on apprend, donc voilà.
Et ton papa, Nanou ?
Oui, ben voilà, mon papa, à la fin de ma maladie, j'avais une histoire de, ben, ça fait 1 an. Je suis partie le rechercher, j'ai fait mes recherches et tout, je l'ai retrouvé, je suis restée avec lui 5 mois. Et puis il m'a dit, écoute ma fille, j'ai pas créé d'amour profond envers toi, donc c'est bon, tu peux t'en aller maintenant. Et donc voilà, mais moi je me dis que j'ai fait ce que je devais faire, j'ai été faire mes recherches, je l'ai retrouvé et tout. Et j'ai fait mon devoir de fille. Maintenant, je m'y attendais un peu parce que je m'étais préparée à une réponse négative comme à une réponse positive. Et quand il m'a dit ça, ben personnellement, ça n'a rien changé pour moi parce que, en gros, j'ai quand même pas grandi avec lui, donc voilà. Donc voilà, et puis j'ai plus jamais eu de nouvelles de mon papa, donc voilà. Et là maintenant, je suis retournée chez ma maman, ça fait un petit bout de temps, pas trop, mais un peu. Et voilà, ça a l'air de bien se passer. Et d'ailleurs, comme j'ai dit là tout à l'heure, c'est pas bien de vivre avec une rancœur parce que c'est en faisant des bêtises qu'on apprend, elle va... Voilà, elle a fait un pas en avant et elle a décidé de venir avec moi m'accompagner au Maroc pour pouvoir me marier. Donc voilà, une bonne chose.
Et ça, c'était important pour toi d'être accompagnée?
Ouais, quand même. Ça fait toujours plaisir, ça c'est d'office.
Je vais peut-être dire une bêtise parce que je ne connais pas ta situation, mais quand tu parlais de regard, de pitié, ça veut dire que c'est difficile de regarder quelqu'un qui est... Parfois, c'est difficile de regarder quelqu'un et d'accompagner quelqu'un qui est malade. Est-ce que tu penses que ta maman, elle avait ce genre de difficulté même si tu étais sa propre fille?
Non, je pense pas que c'était de la pitié qu'elle avait, c'était plus de l'égoïsme. Elle était plutôt égoïste et elle pensait plus à son couple, parce que ma maman s'est remariée, elle a eu des enfants. Elle pensait plus à sa nouvelle vie qu'à moi. En fait, c'est comme si elle m'avait un peu rejetée. Elle savait pas pourquoi, mais c'est comme si elle m'avait un peu rejetée. Et voilà, moi personnellement, le fait qu'elle m'ait rejetée, je lui en veux pas, mais c'est... Je lui en veux plus pour le fait qu'elle n'a pas été présente quand j'en avais besoin. Donc voilà, parce que là maintenant, bon, je me dis que c'est des choses qui se sont passées dans le passé, et puis maintenant je vis le moment présent et le moment futur, et je m'éternise pas sur le passé, parce que sinon je vais jamais avancer dans la vie, et voilà quoi. Je me dis, bon, elle a fait un pas en avant quand même, elle a décidé de venir, par son plein gré, elle a décidé de venir avec moi au Maroc, m'accompagner, me soutenir dans mon mariage, dans mes projets futurs, et voilà quoi, je me dis que c'est une bonne chose. Donc je lui en veux moins qu'avant, ça c'est clair. Voilà.
Et par rapport à ton papa, ce que je voulais te dire, c'est que je sais plus.
Trou de mémoire, c'est pas grave, ça arrive.
Ça va me revenir. Voilà, ce que je te propose, c'est une troisième musique.
Et on là, se relève de Léa Castel.
Et il nous revoit là toujours dans le petit studio. Ben, on l'a pas quitté.
Non, on le quitte pas et on le quittera pas, ça c'est clair.
Merci beaucoup, hein, Nanou.
Non, c'est avec plaisir. Ça, je la dédicace à tous les jeunes qui n'arrivent pas à se relever. Ben voilà, même Léa Castel le dit, c'est que quand on tombe, on se relève et c'est ce qui compte. On veut plus rêver nos vies, nous, on veut vivre nos rêves et il faut les vivre et croquer la vie à plein dedans, quoi.
Tout à l'heure, hein, en fait, ce que je voulais te dire, c'est par rapport à ton papa, c'est parce que tu parlais de ta maman et de ton papa et que tu avais, pour le moment, plus de proximité avec ta maman.
Oui.
Et donc, je posais la question juste par rapport à ton papa. Parce que tu as l'air d'avoir tourné la page quelque part.
Ouais, non, c'est clair. Oui, j'ai tourné la page clairement parce qu'il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit que ça servirait plus à rien de faire mes recherches, de continuer à le contacter. Donc, j'ai compris et j'ai forgé mon cœur par rapport à ça. J'ai un peu fermé la porte par rapport à lui. Et voilà, j'ai tourné la page. Maintenant, si lui veut refaire un pas vers moi, ben, il n'y a pas de souci, je garde les bras ouverts. Et il est toujours le bienvenu, ça reste mon père et ça le restera à vie. Donc voilà, je ne l'oublie pas pour autant. Mais là, maintenant, je suis plus proche de ma maman et lui ne veut plus rien savoir de moi. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi je devrais baisser les bras et ne plus vivre par rapport à ce qu'il m'a dit. Non, c'est au contraire, ça m'aide encore plus à avancer dans la vie et à forger mon cœur, quoi.
Parce que tout à l'heure, ce que tu m'avais dit, c'était la présence de parents, c'est important dans la maladie, mais aussi dans la croissance.
Bien sûr, dans l'adolescence aussi, parce que quand un jeune se retrouve face à des difficultés, où il a besoin d'argent, où il veut travailler, qu'il n'arrive pas à trouver, ou un tas de petites choses comme ça, quand la maman ou le papa n'est pas là, c'est jamais évident de s'en sortir, c'est jamais évident de prendre des responsabilités à 15 ans, à 14 ans, c'est toujours de plus en plus dur et c'est clair que c'est super important d'avoir la présence des parents à côté de soi, quoi. Maintenant, une autre chose, si on l'a pas, ben c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras et se dire oh merde, j'ai pas mes parents à côté de moi, ben je peux pas y arriver, je vais plus rien foutre, je vais glander, je vais rester là avec mes potos en train de fumer ou en train de faire des conneries. Non, au contraire, faut prouver aux parents que qu'ils soient là ou pas, on peut toujours y arriver de soi-même et que on est assez grand et assez fort d'esprit pour pouvoir y arriver et leur prouver le contraire de ce que eux croient de nous.
Merci Nanou.
Il n'y a pas de souci.
Et alors, tout à l'heure, je t'ai demandé, j'ai apporté des phrases de jeunes. Et je t'ai demandé, est-ce qu'il y en a qui te touchent et que tu aimerais utiliser pour ton émission?
Ben, il y en a quand même assez pas mal.
Je vais te demander, lis peut-être la première et puis on voit si on veut réagir.
Ok, d'accord. Alors, maman ne connaît pas mes vrais besoins. Elle ne connaît pas les choses qui me sont nécessaires. Ça, c'est... Ça m'a fort touchée parce que ça m'atteint moi aussi. Et voilà quoi. Et c'est vrai en plus, c'est sincère, c'est vrai. C'est vrai que la maman ne sait toujours pas ce qu'on a besoin ou ce qu'il nous faut. Elle croit savoir, mais elle ne le sait pas vraiment et c'est pas toujours évident à vivre quoi.
Mais on pourrait mettre à la place de maman, papa.
Papa aussi, ouais, bien sûr, c'est clair. Pour moi personnellement, ouais, ce serait plus papa que maman. Mais peut-être que pour d'autres, ça serait la maman. Enfin, ça dépend des situations du jeune, quoi.
Et être parent, Nanou, parce que imagine que des parents nous entendent. Moi, je peux vous poser la question, est-ce que tu penses qu'être parent, c'est quelque chose, c'est un rôle facile ?
Non, bien évidemment, c'est pas facile. Comme je t'ai dit là tout à l'heure, faire des enfants, c'est facile à faire, mais le plus compliqué, c'est de les éduquer, c'est de se lever la nuit avec eux quand ils pleurent, quand ils sont pas bien, les accompagner. L'adolescence aussi, c'est pas évident pour un parent d'éduquer un enfant en plein adolescence, parce que on croit tout savoir, on croit tout connaître, on croit être les meilleurs, les plus forts que les parents. C'est vrai que nous, les adolescents, on a tendance à oublier le respect des parents. Faut pas oublier que c'est nos parents, que c'est eux qui nous ont mis au monde. Ils ont vécu plus que nous, donc automatiquement ils connaissent un peu plus de choses que nous, ils ont plus d'expérience. Et nous, les adolescents, on a tendance à oublier ce petit devoir-là. Et c'est clair qu'être parent, c'est pas toujours évident. C'est vraiment hyper difficile. Moi, personnellement, des fois, je me dis quand même, quoi, il y a des parents où chapeau, ils tiennent le coup avec leur gosse et tout. C'est vraiment super beau, les parents qui tiennent le coup. Et ouais, non, c'est pas évident du tout d'être maman ou papa. Parce qu'il faut assumer niveau financièrement, il faut les vêtements, il faut les suivre niveau cours, niveau école, niveau études. Il faut essayer de faire en sorte qu'ils n'ont pas de mauvaise fréquentation. Il faut faire. Il y a plein de points où les parents ils sont aussi un peu perdus. Ils savent plus quoi faire par rapport à leurs enfants qui sont turbulents, qui font n'importe quoi, qui font des conneries et qui n'ont pas de limite, quoi, qui savent pas se mettre une limite à eux-mêmes. Parce que nous, les adolescents, il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est que quand on est en famille, on est le bon samaritain, et une fois qu'on est en dehors de la maison, on devient un autre, on garde pas notre propre personnalité, en fait. On s'adapte aux personnalités des autres fréquentations, et c'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon, quoi.
Et comment tu expliques le fait que vous, justement, vous copiez, vous n'êtes plus vous-même à ce moment-là?
C'est triste parce que c'est les générations qui ont évolué, mais dans le mauvais sens, parce que nous, les jeunes ados, moi aussi, personnellement, j'ai aussi tendance à prendre une autre personnalité quand je suis en compagnie de quelqu'un, tout simplement pour pouvoir paraître bien, pour pouvoir paraître au top, pour pouvoir paraître comme la personne. Mais non, au final, c'est quand même ridicule parce que la personne, si elle vous accepte, elle vous accepte pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous montrez ou ce que vous paraissez être. Faut rester soi-même. On n'a pas, ben tant pis. Et puis voilà, c'est une amitié, il faut la forger pour ce que tu es, pas pour autre chose.
Mais quand tu dis il faut être soi-même, il faut d'abord, enfin, il faut être soi-même, il faut apprendre à connaître, à savoir ce que l'on aime
Qui
et
on
qui
est.
on est vraiment.
Voilà, exactement.
Et ça, c'est pas facile non plus.
Non, c'est clair que c'est pas facile, c'est tout un travail à faire, hein, ça c'est clair. Et moi, je dis le meilleur travail à faire, c'est quand on se retrouve seul dans une pièce ou dans un coin et qu'on réfléchit, qu'on se remette en question un peu, qu'on se dit ce que je fais là, c'est bon, c'est pas bon. Non, essayer de voir la réalité des choses en face et essayer de voir les choses bien. Et même si ça nous plaît pas forcément, eh ben ça doit être comme ça et ça va être comme ça. Il faut qu'on y arrive, quoi, d'office. Donc voilà.
Une autre petite.
Ouais, bien sûr. La vie n'est qu'un enchaînement d'expériences bonnes ou mauvaises. Voilà. Alors, pour revenir sur le sujet, c'est pas mal, c'est bien dit et c'est réel en même temps. La vie, c'est ça, hein, c'est clairement, c'est un jour c'est bon, un jour c'est pas bon, et voilà quoi. Il faut faire avec, il faut vivre avec. On n'a pas le choix, on peut pas changer le monde. Il y a une autre fiche un peu plus loin qui dit c'est le monde tourne droit, c'est les gens qui tournent pas droit. Et je suis tout à fait d'accord parce que des fois on a des délires qui n'ont rien à voir, qui sont ridicules et nous on croit bien faire, mais c'est du n'importe quoi quoi. On fonce droit dans le mur, clairement quoi. Donc voilà.
Merci beaucoup, Nanou.
Ben, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir.
Et je peux te poser une dernière petite
Oui,
question?
bien sûr, bien sûr.
Pourquoi on est sur Terre?
Pourquoi on est sur Terre? Bonne question. Pour vivre. Moi, je dis que la vie, c'est une expérience, c'est un test. C'est un test pour nous-mêmes. Moi, je dis que c'est une voiture. C'est une voiture maintenant. Tout dépend de comment est-ce qu'on la conduit. Si on la conduit de travers, évidemment, on va foncer dans le mur. Si on la conduit droit et qu'on roule correctement, tout va bien, quoi. Il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de boum, il n'y aura rien. Donc voilà. On est sur Terre pour tester, pour vivre, et celui qui vit bien, tant mieux. Celui qui veut faire ses conneries toute la vie et qui veut continuer à foncer dans le mur, tant pis pour lui. C'est triste, c'est dommage, c'est vraiment dommage, quoi. C'est clair.
Tu parlais de, je vais peut-être dire une bêtise, mais tu parlais de voiture, là.
Ouais,
et tu comparais un peu l'humain à une voiture à ce moment-là. Mais si tu te compares à une voiture, dans la voiture, il y a un code de la route, tu vois, pour prendre
bien
ta priorité,
sûr,
etc.
Bien sûr.
Et chez l'homme, chez l'être humain,
aussi,
ce serait quoi son permis de conduire, code de la route, pardon.
Le savoir-vivre, tout simplement, le respect de l'autre, le savoir-vivre, essayer d'évoluer, essayer de... Il n'y a que les cons qui ne changent pas de toute manière, mais voilà quoi. Moi, je dis, il faut savoir vivre, il faut essayer de voir les choses bien, de voir les choses correctement. On peut très bien s'amuser, très bien délirer, se taper des bons moments, et pour autant garder les pieds sur terre et se dire, bon ben, quand même, je dois mettre mes limites, quoi. Savoir se mettre ses limites à soi-même. Donc, voilà.
Je te remercie mille fois,
Nanou,
d'avoir accepté, d'avoir participé, d'avoir réalisé ce beau projet.
C'est avec un énorme plaisir.
Partagé. Et je vais te souhaiter, pour ton futur, plein de bonheur.
Merci beaucoup à moi et à tous les jeunes.
On va se quitter avec une autre musique. Et voilà. Cette fois-ci, je te laisse l'annoncer.
C'est Sherif Alouna, au revoir.
Au revoir, Nanou.
Au revoir, Christian.